Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 22 mars 2023. Au Nigeria, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle en justice. L'Éthiopie retire le TPLF, parti des autorités rebelles du Tigré, des entités terroristes. La Journée mondiale de l'eau 2023, célébrée aujourd'hui, vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement.
L'eau vient dans mon quartier deux fois par semaine, samedi et dimanche. Ça veut dire que toute la semaine, il n'y a pas d'eau.
Reportage à suivre de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jolentap, de la partie magazine. New York polarise l'attention des Américains dans l'attente d'une possible inculpation pénale de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. En France, le président Emmanuel Macron souhaite l'entrée en vigueur de la très contestée réforme sur les retraites d'ici la fin de l'année, disant accepter d'endosser l'impopularité. Ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Deux candidats malheureux de l'opposition à la présidentielle au Nigeria saisissent la justice pour contester la victoire de Bola Tinubu du parti au pouvoir. Atiku Abubakar et Peter Obi dénoncent des trucages de vote et appellent à l'organisation d'une nouvelle élection. Alexandrine Oloyon nous en dit plus.
Atiku Abubakar, du principal parti d'opposition, arrivé deuxième à la présidentielle, a introduit son recours mardi soir. La veille, c'était Peter Obi, candidat surprise de la jeunesse, qui a également saisi la justice pour contester sa défaite. Les accusations portent notamment sur des trucages de vote. Les deux contestataires appellent à l'organisation d'une nouvelle élection. L'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, a remporté la présidentielle en cumulant 37% des voix. Mais l'opposition a dénoncé des fraudes massives après de nombreux retards dans la transmission électronique des résultats. Ils assurent que l'élection doit être invalidée car la commission électorale a violé la loi électorale. Les analystes prévoient que ces recours arrivent jusqu'à la Cour suprême, comme lors de la précédente présidentielle en 2019.
Au Niger, l'armée affirme avoir tué la semaine dernière à la frontière avec le Nigeria une vingtaine de terroristes du groupe djihadiste Boko Haram. Elle ajoute avoir également capturé 83 autres combattants présumés qui ont ensuite été remis aux autorités nigérianes. Les militaires nigériens parlent d'opérations de ratissage aéroterrestre avec pour but de neutraliser les bases de l'USWAP. C'est le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction dissidente de Boko Haram installée dans la forêt de Matari au Nigeria, d'où sont planifiées des attaques contre des villes et des positions militaires au Niger. En Centrafrique, près de 200 personnes ont participé aujourd'hui à Bangui, la capitale, à une manifestation en soutien à la Chine et à la Russie, 4 jours après le meurtre de 9 Chinois sur un site minier dans le centre du pays. Le rassemblement à l'appel du Front républicain proche du pouvoir a commencé dans la matinée et s'est achevé à la mi-journée au pied du monument d'hommage aux forces armées centrafricaines et à leurs alliés russes. Les députés éthiopiens ont retiré aujourd'hui le Front de libération du peuple du Tigré, parti des autorités rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie, de la liste des entités terroristes, nouvelle étape majeure de l'application de l'accord ayant mis fin à 2 ans de conflit. Les précisions de John Lydon.
Longtemps tout-puissant, le TPLF, qui a gouverné de fait l'Éthiopie durant 3 décennies, avant d'être marginalisé à l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, à la faveur de plusieurs mois de contestation populaire, était classé terroriste par les autorités éthiopiennes depuis le 6 mai 2021. Un conflit armé l'opposait alors depuis novembre 2020 au gouvernement fédéral, auquel a mis fin un accord de paix signé en novembre dernier, qui prévoit notamment la levée de cette qualification terroriste. Conformément à l'accord de paix, les combats ont cessé, les services de base, électricité, télécommunications, banques ont commencé à être rétablis au Tigré et les accès à cette région, quasi coupée du monde durant près de 2 ans, sont à nouveau ouverts, notamment à l'aide humanitaire dont dépend de 90% de ces 6 millions d'habitants. La levée de la qualification terroriste du TPLF ouvre désormais la voie à la mise en place d'une administration intérimaire au Tigré, dirigée par le TPLF, comme le prévoit l'accord de paix de Pretoria. Le bilan du conflit au Tigré, marqué par des terribles exactions, est difficile à établir, mais les États-Unis estiment qu'il a fait environ 500 000 morts, soit plus que l'invasion russe de l'Ukraine.
L'ONU, l'ONG Amnesty International, Washington et Londres demandent au président ougandais Yoweri Museveni de rejeter une loi contre l'homosexualité adoptée hier par le Parlement en la critiquant vivement. Le vote de ce texte discriminatoire, probablement le pire au monde en son genre, est un développement profondément troublant, a dit Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Quant au chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, il affirme que cette loi met en cause les droits fondamentaux de tous les Ougandais et pourrait affecter la lutte contre le sida.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, un grand jury devait se réunir à nouveau à New York ce mercredi afin de déterminer s'il faut inculper l'ex-président Donald Trump dans l'affaire des pots de vin versés à une star du porno. Les détails avec Rosine Monizero.
La justice new-yorkaise cherche à déterminer si M. Trump est coupable de fausses déclarations, une infraction ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal pour avoir versé de l'argent à cette femme de son vrai nom, Stephanie Clifford, juste avant la présidentielle de 2016 que le républicain avait remportée. L'ancien président américain avait lui-même assuré qu'il allait être arrêté mardi dans cette affaire de pot de vin, mais la journée s'est terminée sans aucun signe d'inculpation ou d'arrestation. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, n'a confirmé aucun projet publiquement et les grands jurys opèrent en secret. La police new-yorkaise a tout de même érigé des barricades à l'extérieur du palais de justice et de la Trump Tower. M. Trump a appelé à des manifestations massives s'il est inculpé, alimentant la crainte de troubles similaires à l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Mais jusqu'à présent, les protestations sont restées modestes et discrètes.
Le président français Emmanuel Macron est enfin sorti de son silence ce mercredi après des semaines de vives tensions sociales. Il se dit sans regret ou presque sur sa réforme des retraites qu'il souhaite voir appliquée avant la fin de l'année. Le point avec Eric Manirakiza.
Monsieur Macron a simplement concédé un possible regret, celui de ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme. Lors d'une interview télévisée, il a répété ses arguments pour justifier la nouvelle loi. Cette réforme, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, a-t-il commenté, invoquant à nouveau la nécessité de répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population, la France étant l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas. La loi prévoit le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Emmanuel Macron d'insister sur le fait que la réforme doit être appliquée avant la fin de l'année pour que les choses rentrent en place. Très attendu, l'interview du président qui a duré 35 minutes a fait bondir tant l'opposition que le monde syndical. Le chef de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé les traditionnelles marques de mépris et l'arrogance d'Emmanuel Macron. Il est dans un délit absolu à critiquer le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, depuis l'Assemblée nationale. Indignation également du côté des syndicats qui ont organisé et encadré pendant 2 mois une contestation pacifique d'ampleur. À la veille d'une nouvelle journée nationale de mobilisation syndicale, le président Macron a confirmé qu'il n'allait ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni remanier le gouvernement, ni convoquer un référendum sur sa réforme décriée.
L'Organisation des Nations Unies a ouvert aujourd'hui à New York sa première conférence sur l'eau en près d'un demi-siècle, au cours de laquelle elle a exhorté les gouvernements à mieux gérer l'une des ressources communes de l'humanité. La conférence qui s'est ouverte au siège de l'organisation à New York doit durer 3 jours. Si elle n'est pas destinée à produire le même type d'accord contraignant issu de la COP21 de Paris en 2015 ou de la COP15 de Montréal en 2022, Antonio Guterres a indiqué qu'elle devait tout de même même déboucher sur un programme d'action pour l'eau audacieux qui donne à l'élément vital de notre monde l'engagement qu'il mérite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite aujourd'hui à ses troupes près de la ville de Bakhmout, située sur la ligne de front, et a remis des décorations à des soldats qui, a-t-il dit, défendent héroïquement la souveraineté de leur pays. Volodymyr Zelensky a présenté la forteresse Bakhmout comme un symbole de défi qui saigne l'armée russe à blanc. Et puis le président chinois Xi Jinping a quitté Moscou aujourd'hui après un voyage de 2 jours en Russie, axé sur le renforcement des liens avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont loué l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations spéciales face à l'Occident. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
Au Cameroun, entre juillet et septembre 2022, les services d'information et de communication ont enregistré une croissance de 8,5% par rapport à la même période l'année précédente, pour une contribution de 0,2 points au PIB du pays, selon le dernier rapport de l'Institut national de la statistique. Selon l'Institut, cette performance résulte de la multiplication des offres promotionnelles pour stimuler la consommation croissante des services Internet et des paiements par téléphonie mobile. Le Zimbabwe, où les coupures d'électricité peuvent durer jusqu'à 19 heures par jour, a commencé à distribuer plus de courant, se tournant vers le charbon et la Chine pour augmenter sa production largement insuffisante, a annoncé mardi l'entreprise publique Zimbabwe Power Company. Grâce à un financement à hauteur de 85% de l'entreprise publique chinoise Sinohydro, le Zimbabwe a construit 2 nouvelles unités de production de charbon de 300 MW chacune pour un coût de 1,4 milliard de dollars. Au Maroc, la Banque centrale a décidé le 21 mars de relever le taux directeur de 50 points de base à 3%, et ce pour prévenir les spirales inflationnistes qui affectent les ménages modestes et vulnérables. La hausse des prix, en particulier alimentaires, provoque ce nouveau resserrement monétaire dans un contexte de forte poussée inflationniste, source de grogne sociale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball Africa League, le champion en titre tunisien out.
Oui, c'est le coup de tonnerre à l'issue des matchs de la conférence Sahara qui a désigné hier mardi ses 4 qualifiés pour les playoffs prévus pour fin mai à Kigali au Rwanda. L'US Monastir de la Tunisie est tombé 60-76 devant l'AS Douane du Sénégal qui arrache sa 3e victoire dans cette conférence Sahara et se qualifie en même temps pour les playoffs. Avant ce match, le stade malien de Bamako a assuré sa qualification pour les playoffs en dominant Abidjan Basketball Club 71-90. Les Ivoiriens restent tout de même qualifiés pour les playoffs, tout comme Reg du Rwanda. Sont éliminés l'US Monastir de la Tunisie et les Nigériens de Kwara Falcons. Les 4 qualifiés de la conférence Sahara connaîtront leurs adversaires des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nil prévue du 26 avril au 6 mai prochain au Caire, en Égypte.
Ici en NBA, Cleveland bat Brooklyn et qualifie Philadelphie pour les playoffs.
Grâce notamment aux 31 points de Donovan Mitchell, les Cleveland Cavaliers ont dominé les Nets de Brooklyn 115-109. Cette victoire permet aux Sixers de Philadelphie, 3e à l'Est, de s'assurer une place en playoffs sans même avoir joué la nuit dernière. Sale soirée pour les Clippers de Los Angeles qui se sont inclinés 101-100 face au Thunder d'Oklahoma City et perdu Paul George. Blessé au genou droit, à Sacramento, les Celtics de Boston ont frappé un grand coup en s'imposant 132-109. Dans les autres matchs, Trae Young a terminé avec 30 points lors de la victoire d'Atlanta 129-107 sur les Pistons de Détroit. Atlanta est assuré de disputer au moins le tournoi de rattrapage qui oppose les équipes de la 7e à la 10e place de chaque conférence pour le dernier billet des playoffs. Des playoffs qui ne verront probablement pas les Washington Wizards, 12e à l'Est, anéanti à Orlando par le Magic 122-112.
Début ce mercredi, des matchs de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Le Bénin enregistre son premier point dans ses éliminatoires. Les Guépards ont arraché le match nul 1-0 devant les Amavubi du Rwanda. Le Bénin reste dernier du groupe derrière le Rwanda, 2e avec 2 points. Le Sénégal est premier avec 6 points, suivi du Mozambique, 4 points. Béninois et Rwandais se rencontrent une fois de plus, toujours au Bénin, pour la quatrième journée. Dans le second match de ce jour, la Sierra Leone et Sao Tomé et Principe se sont aussi neutralisés 2-2. Ce match nul ne change rien au classement des deux formations dans la poule A. La Sierra Leone garde sa troisième position devant Sao Tomé et Principe. Le Nigeria et la Guinée-Bissau jouent les premiers rôles dans ce groupe.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Aujourd'hui est célébrée la Journée mondiale de l'eau. Au Mali, comme dans beaucoup de pays africains, l'accès à cette denrée vitale n'est pas chose aisée pour toutes les familles malgré les efforts fournis par les autorités. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, s'est rendu à Niamakoro, en commune 5 du district de Bamako, pour partager le quotidien de certaines familles. Reportage.
Âgé de 14 ans, Mamadou Dambélé achemine de l'eau recueillie dans le robinet public du quartier. C'est le seul moyen pour sa famille pour avoir accès à l'eau potable. Avec en moyenne 4 tours par jour, les contraintes scolaires et récréatives sont réelles pour lui. Quand on vient pour prendre de l'eau, il y a souvent du monde et nous allons en retard à l'école. Pour le soir, prendre de l'eau nous empêche de jouer au football. Dimanche dernier par exemple, nous avions un mariage en famille. J'ai fait plus de 10 tours pour satisfaire les besoins en eau. Il arrive qu'à force de pousser l'eau, j'ai des courbatures et ai des difficultés à dormir la nuit. À Niamakoro, ce quartier populaire de la commune 5 du district de Bamako, si toutes les familles n'ont pas accès facile à l'eau potable, Ousmane Togula, gérant du robinet public, affirme que des efforts ont été faits par les autorités pour améliorer la situation.
Les femmes pouvaient passer la nuit toute entière à la recherche de l'eau. Donc aujourd'hui, l'État a mis les paquets, ils ont fait le robinet partout. Tous ceux qui ont les moyens, ils ont pu prendre le robinet. Mais actuellement, c'est facile. L'eau est facile partout actuellement aujourd'hui.
Si les femmes ne passent plus de nuit blanche à attendre l'eau, elles mettent à profit les puits présents dans pratiquement toutes les familles de ce quartier. Mariam Kone.
Actuellement, ça va un peu. On a de l'eau, même si par moment nous puisons l'eau de pluie pour nos besoins. Ça n'a pas toujours été facile pour nous. Il fut un temps où nous passions toute la nuit pour avoir de l'eau potable.
Si l'eau potable est relativement facile d'accès, par peur de factures salées, cette eau est réservée à des tâches spécifiques et n'est pas utilisée pour tous les besoins. Mamadou Kanti. Nous jeunes, pour le bain, nous puisons l'eau de puits. L'eau de robinet est réservée uniquement pour la cuisine et la consommation, pas pour autre chose. Ici, les populations attendent que la promesse gouvernementale de faciliter l'accès à l'eau potable à toutes les familles soit une réalité. Kalilou Togola.
Vu que tout le monde n'a pas accès à avoir le robinet dans leur famille, donc c'est ça la difficulté de ça. Parce qu'il y avait un moment, on avait prédit à tout le monde d'avoir l'accès à de l'eau, au robinet plutôt. Je pense que vraiment tout le monde n'a pas eu l'accès à ça.
En attendant, le jeune Mamadou Dambélé et la vieille Mariam Kone vont continuer à pousser et à tirer l'eau à la force de leurs bras. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'accès à l'eau potable reste faible au Cameroun, selon le rapport 2018 de l'Institut national de la statistique. Le taux moyen d'accès à l'eau potable est de 77% en milieu urbain et 45% en milieu rural, ce qui fait de ce précieux liquide une denrée rare. Dans les grandes métropoles comme Yaoundé et Douala, les populations sont ravitaillées au quotidien. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Pour obtenir de l'eau potable ce jour, les résidents de certains quartiers de Yaoundé se sont rendus dans 19 points de ravitaillement communiqués à l'avance par la CAMWater. la société chargée du service public de l'eau potable et de l'assainissement au Cameroun. À ce point, des camions-citernes stationnent pour distribuer de l'eau aux consommateurs. Stéphane Kanga est un jeune étudiant et exprime son insatisfaction.
Satisfait, je dirais non, à plusieurs niveaux. Vous savez, quand on dit quelque chose est disponible, vous savez qu'à tout moment, on doit l'avoir. Et à chaque fois, on a des coupures. Au niveau de l'eau, c'est pas bon. Moi, je suis au quartier Ekounou. L'eau vient dans mon quartier deux fois par semaine, samedi et dimanche. Ça veut dire que toute la semaine, il n'y a pas d'eau.
Les robinets sont restés à sec entre lundi dernier et ce mercredi dans plusieurs quartiers, y compris les quartiers résidentiels de Yaoundé. Situation similaire le 20 mars dernier à Mokolo, Mora et Koza, des localités de la région de l'extrême nord. La direction de la communication de la Camwater explique que ces désagréments sont causés par des coupures d'électricité dans les stations de distribution de l'eau du pays. Mais le faible taux de raccordement des ménages au réseau d'eau potable est préoccupant dans les trois régions de la partie septentrionale du Cameroun. Michael Sali Douba, paysan au village Sakdje, dans la région du Nord.
Pour avoir d'eau ici, il faut creuser des puits d'eau et ça tarit. Il n'y a pas assez d'eau. Avec ce manque d'eau, des fois, on part dans les rivières pour chercher de l'eau. L'eau des rivières, ce n'est pas potable. Des fois, tu as le mot de ventre, des fois, on a la typhoïde, des fois, on a la dysenterie.
Pour pallier aux besoins en eau de qualité dans ces zones reculées de la région du Nord, des particuliers ont entrepris de faire don des forages dans des villages. Franklin Yebga, pasteur de la mission de sainteté africaine, est l'un de ses donateurs dans la localité de Lakdo.
J'ai fait le tour de Lakdo, j'ai vu que le problème d'eau était très sérieux. C'est donc comme ça que je décide, me disant que si j'ai des moyens un jour, je vais répondre à ce besoin crucial en leur fournissant de l'eau potable, notamment ce forage que vous voyez aujourd'hui.
À Yaoundé, les Camerounais font de plus d'espoir sur la fin des travaux en avril prochain du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville et ses environs qui va apporter 400 000 mètres cubes par jour. Et à Douala, le président Paul Biya a annoncé le lancement en 2023 d'un méga projet d'adduction d'eau potable. Les perturbations dans la distribution de l'eau potable ont favorisé l'expansion des sociétés qui offrent des services d'aménagement des forages pour un coût minimal de 5 millions de francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La lutte du Burkina Faso contre les combattants islamistes suscite des inquiétudes en matière de sécurité le long de la frontière commune avec le Ghana. Les villes frontalières ghanéennes de cette zone font état d'un afflux d'armes illégales à travers la frontière poreuse. Le reportage de Senanou Tord dans la localité de Paga, au Ghana, est rendu par Dilidiko.
Paga, une communauté ghanéenne située le long de la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso, est liée économiquement à sa voisine burkinabé Dakola. Les échanges transfrontaliers ont été facilités par les accords commerciaux de la CEDEAO entre les États d'Afrique de l'Ouest. Mais les communautés ghanéennes craignent que des armes en provenance du Burkina Faso, qui luttent contre les militants islamistes, ne soient introduites illégalement au Ghana, ce qui constituerait une menace pour la sécurité. Awal Ahmed Karyama est le directeur exécutif de Rural Initiatives for Self-Empowerment, une organisation à but non lucratif de défense des droits humains opérant le long des frontières.
Le nord du Ghana est très vulnérable. L'une des principales caractéristiques de cette vulnérabilité est l'existence de conflits non résolus au niveau des chefferies et des ethnies, ainsi que la marginalisation de ces dernières. Ces éléments rendent le nord du Ghana très très vulnérable aux dangers extrémistes ou terroristes.
Les analystes estiment que la sécurité du Ghana est menacée. Moutarou Moumouni Mouktar est le directeur exécutif du Centre Ouest-Africain de lutte contre l'extrémisme.
Il y a une route spéciale que nous connaissons et par laquelle les gens passent. Mais au-delà, il y a des routes non approuvées. Et vous savez, dans les villes frontalières, la contrebande est généralement le fléau commun.
L'armée ghanéenne a assuré à ses concitoyens qu'elle disposait des ressources nécessaires pour contrecarrer toute insurrection éventuelle. Les responsables militaires affirment que dans le cadre d'un projet conjoint de coopération en matière de sécurité, appelé Initiative Accra, ils échangent avec le Burkina Faso des renseignements sur les menaces potentielles. Le colonel Richard Mensa est le chef des opérations de la brigade des opérations spéciales de l'armée ghanéenne.
Nous travaillons beaucoup ensemble. Il y a toujours un échange d'informations, des échanges de renseignements et tout cela le long des frontières. Pas seulement entre militaires, mais aussi entre douaniers, services d'immigration et police.
Le Ghana, le Burkina Faso et plus d'une vingtaine d'autres pays ont récemment participé à 2 semaines d'entraînement au combat antiterroriste dans le cadre du programme Flintlock 2023 du commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique. Contrairement à ses voisins, le Ghana jouit d'une relative stabilité et espère que le programme renforcera sa préparation contre le terrorisme.
Les scénarios choisis par Flintlock imitent ce qui s'est passé dans différents pays et le modus operandi des terroristes. Ce sont donc des scénarios qui ont été conçus pour entraîner nos troupes.
Les autorités ghanéennes affirment qu'elles continueront de faire participer les habitants à l'échange de renseignements et à la lutte contre le terrorisme.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les États-Unis et leur stratégie sécuritaire dans le Sahel et en Afrique. Quelques 1300 militaires de 29 pays ont pris part ce mois au Ghana et en Côte d'Ivoire aux exercices militaires Flintlock. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui était en visite au Niger la semaine dernière, a estimé que Washington est un partenaire plus fiable dans la lutte contre la pauvreté et la violence djihadiste. Quel type de coopération pour venir à bout du terrorisme sur le continent? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Alors que le président chinois Xi Jinping terminait sa visite de 3 jours à Moscou, la Maison-Blanche a exprimé son pessimisme quant au fait que les pourparlers du dirigeant chinois avec le président russe Vladimir Poutine ouvriront la voie à la fin de la guerre en Ukraine. Nathalie Barge relate un compte-rendu de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patty Widakutswara.
À Moscou, un tapis rouge et un dîner d'État organisé par le président russe Vladimir Poutine pour le dirigeant chinois Xi Jinping.
En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et la Russie continueront de travailler avec la communauté internationale pour sauvegarder fermement les normes fondamentales des relations internationales fondées sur les buts et les principes de la Charte de l'ONU.
Xi Jinping a appelé à une solution diplomatique en Ukraine que Vladimir Poutine dit soutenir.
Nous pensons que de nombreux points du plan de paix de la Chine sont en phase avec les approches russes et pourrait constituer une base pour un règlement pacifique lorsque l'Occident et Kiev seront prêts. Cependant, nous ne voyons pas encore une telle approche de leur part.
De son côté, la Maison-Blanche a rejeté la demande de Vladimir Poutine. John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques.
Nous n'avons rien vu de ce qu'ils ont dit, qu'ils ont mis en avant, qui nous donne l'espoir que cette guerre va bientôt se terminer.
Avant la réunion des deux dirigeants, les États-Unis ont mis en garde contre un cessez-le-feu négocié par la Chine, affirmant qu'il ratifierait les gains de la Russie en Ukraine. Cette rencontre n'a pas abouti à une proposition de négociation de cessez-le-feu. John Kirby a déclaré que les États-Unis ne soutiendraient les pourparlers négociés par Pékin que si le président Vladimir Zelensky croyait qu'il conduirait à une paix juste. Pour le président ukrainien, cela signifie aucune concession sur le territoire annexé par Poutine. George Bibb, directeur de la stratégie globale à l'Institut Quincy pour une politique responsable.
Je doute que les Russes acceptent cette condition. Ils l'ont déjà rejetée comme quelque chose qu'ils ne considèrent pas comme un point de départ pour des négociations.
Vladimir Zelensky a rencontré hier le premier ministre japonais Fumio Kishida, dernier dirigeant de l'Alliance occidentale, a effectué une visite surprise à Kiev.
compte tenu de la force du Japon, de son leadership en Asie, dans la défense de la paix et de l'ordre international fondé sur des règles et de sa responsabilité pour présider le prochain G7. Non pour parler d'aujourd'hui peut vraiment aboutir à un résultat mondial.
Après sa rencontre avec Poutine, un appel entre Xi et Zelensky pourrait également avoir lieu, mais cela n'a pas été confirmé.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.